Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis Philippe Périlla et je suis en présence donc de Marie-Christine Périlla qui est venue avec moi pour ce week-end à L'Auriol. Et non, vous ne me connaissez pas, c'est pas grave, hein. On est frères, non? Donc moi je viens de la région PACA, et en fait je travaille comme implanteur sur Aix-en-Provence. Vous connaissez Aix-en-Provence? Voilà, donc avant on était sur Marseille, on était donc à l'étranger. Et en fait, on a aussi fait de l'implantation là-bas. Et voilà, je fais aussi partie d'une œuvre qui s'appelle GLO. Vous avez peut-être entendu parler de GLO, hein? Sinon, ben vous avez raté votre vie, c'est tout. GLO, c'est Gospel Literature Outreach. C'est une œuvre d'implantation et d'évangélisation qui est européenne et même internationale. Donc moi, on a l'immense privilège de faire partie d'un réseau qui est international. Et où on peut rencontrer des gens du monde entier. L'évangile, il progresse dans tous les pays d'Europe, contrairement à ce qu'on dit, en Albanie, dans les pays de l'Est, en Roumanie. On a aussi le Danemark, l'Italie, bien sûr le Royaume-Uni, la France. Et franchement, une de nos activités les plus, je dirais, porteuses pour l'évangile, c'est d'organiser des courtes missions l'été, qui dure 15 jours ou une semaine, ça dépend. Et franchement, faire partie d'une courte mission comme ça, ça change la vie. Ça change la vie chrétienne. C'est comme si on met des vitamines ou on ouvre les fenêtres, il y a l'air pur qui rentre, c'est l'évangile, voilà. On se sent complètement démuni devant la tâche que le Seigneur nous donne et on s'aperçoit que malgré nos faiblesses, ben, il nous utilise pour le salut des gens. Ça, si vous ne l'avez jamais fait, ben, il faut le faire. Donc, on fait aussi partie d'une communauté qui s'appelle la communauté Apprentissage des Implanteurs, que je dirige avec Mathieu Glock et Gérald Sid, que vous connaissez peut-être. Ça fait 2 semaines, on a eu un super séminaire sur l'implantation. Et croyez-le ou pas, mais dans notre union d'église, on a 14 projets d'implantation actuellement dans la France, des nouveaux projets. Donc, il faut prier pour ces frangins et ces frangines qui travaillent là où il n'y a pas d'église et qui annoncent l'évangile là où il n'est pas annoncé. Donc, c'est pas vraiment un enseignement ce matin, c'est plutôt un encouragement que je voudrais partager avec vous. Si vous venez à Aix-en-Provence et que vous interrogez le membre lambda de notre petite église, on est à peu près une cinquantaine aujourd'hui, on a commencé le travail, ça fait 5 ans. On a aussi un café associatif où on sert le meilleur café de toute Aix-en-Provence. Il n'est pas cher, vous pouvez venir, il y a aussi des crêpes. Et si jamais vous voulez visiter un endroit branché et chrétien, c'est le Café du Feu qu'il faut absolument goûter. Donc, oui, c'est plutôt un encouragement. Si vous prenez une personne lambda de notre église et vous lui posez la question, ton église, c'est quoi? Il va vous répondre au moins 2 choses, parce qu'on a martelé ces choses-là depuis le début. C'est super de faire partie d'une jeune église, parce que tu peux dire les choses depuis le début, ça rentre dans l'ADN. Et quelquefois, cet ADN, quelque part, on le perd. Et on ne sait pas pourquoi. On perd des choses élémentaires, fondamentales, et on est plein d'autres soucis d'église, et on oublie des fois ce corps qui fait vraiment le centre même de notre disque dur en tant que chrétien. Un membre lambda d'Aix-en-Provence vous répondrait, ben, je fais partie d'une église qui est dynamisée par l'évangile. Parce que notre logo, c'est une église dynamisée par l'évangile. Il y a un frangin, tout à l'heure, il a prié. Il a dit, l'évangile ne nous fait pas uniquement que nous avoir sauvés, il continue de nous sauver. L'évangile est une puissance de transformation dans notre vie aujourd'hui. Il continue de nous sauver. Et la seule manière d'être transformé, c'est toujours l'évangile. Ça ne sera pas quelque chose d'autre, une autre recette. Même avec 20 ans ou 30 ans de théologie, ça sera toujours la croix et la résurrection. C'est la base. Et c'est la base qui nous accompagnera jusqu'à dans la demeure céleste. C'est l'évangile. Et l'évangile, c'est quelque chose qui continue de nous transformer et transformer le monde autour de nous. Ou alors, il n'y a pas de transformation. Il y a du bricolage. Mais le Seigneur transforme. Il ne fait pas du mieux. Il fait du nouveau. Et le nouveau, c'est dans l'évangile. Et la deuxième chose qu'un membre lambda de notre église vous dirait, c'est que on est là pour faire des disciples qui font des disciples. On aime mieux s'appeler disciples de Jésus-Christ que chrétiens. Parce que chrétien, des fois, ça ne veut plus rien dire dans notre pays. Alors que disciples de Jésus-Christ, ça pose. Bien sûr, on ne dit pas disciple de Jésus-Christ entre nous, mais on parle de vie transformée, et c'est ça, être disciple de Jésus-Christ. Alors je voudrais partager avec vous un de nos versets phares, qui est très cher à Marie-Christine et à moi. On l'a reçu pas uniquement parce que Marie-Christine m'a suivi, parce que j'avais ce verset phare. C'est vraiment quelque chose qu'on a reçu tous les deux et qui fait vraiment un petit peu le corps de notre ministère. Donc je le partage avec vous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse sa parole. C'est de Timothée 2:2. Alors je mets aussi le verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est surtout ce verset 2 que vous avez certainement entendu, c'est un verset hyper connu. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Si vous le gardez dans un petit coin de votre tête, je vais vous dire le titre de mon message ce matin, d'accord ? Un titre facile dont vous pourrez vous souvenir. Ça va ? C'est bon, hein ? Donc, MMDG 4 vs TV 3. Ça va ? J'ai pensé à un truc simple. J'aurais pu rajouter la clé SEF. À la fin, il y a une clé SEF, c'est la conclusion. Mais j'ai pensé que ça serait peut-être un peu trop chargé, non ? Ça suffit comme ça ? Ok, ça marche. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que veut dire MMDG 4 vs TV 3. Et vous allez voir, ça se comprend très bien. En fait, c'est tout basé sur 2 Timothée 2:2. Alors, 2 Timothée 2:2, je l'ai dit tout à l'heure, vous en rappelez ? Est-ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins ? Confie-le à des hommes fidèles ou capables, qui soient aussi capables de l'enseigner à d'autres. Si on parlait de génération spirituelle, dans ce verset, combien de générations spirituelles vous verriez ? Je ne parle pas de génération physique, je parle de génération spirituelle. C'est-à-dire avec des gens qui font des disciples, qui font des disciples. Dans ce verset, 2 Timothée 2:2, combien de générations spirituelles verriez-vous ? Alors, 3 qui dit mieux ? 3 une fois, 3 deux fois, 4, 4, 4, ah oui, voilà, ah, j'ai 4, il y en a un qui est malin, il a regardé voilà, il y en a au moins un qui suit, c'est génial. Oui, bah oui, il y a 4 générations, il y a Paul, c'est la génération 1, Timothée, c'est la génération 2, d'accord ? Les hommes capables, c'est la génération 3, qui soient capables de l'enseigner à d'autres, les autres, c'est la génération 4. Vous imaginez, Paul avait une vision sur 4 générations spirituelles. Et je pose la question, combien d'entre nous avons ce type de vision ? 4 générations, ça fait beaucoup, hein ? Même dans une famille, ça fait beaucoup. Prier pour ses enfants, pour ses arrière-enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, mais transposer ça sur le mode spirituel. 4 générations, c'était la vision de l'apôtre Paul. En fait, même, je pense qu'il avait une vision plus grande, mais il a dû écrire d'une manière un petit peu courte à Timothée. Donc j'ai essayé de voir ce verset. Voilà, MMD, ça veut dire quoi ? Ça veut dire mouvement de multiplication de disciples. Paul était impliqué dans un mouvement de multiplication de disciples. Et je vais expliquer brièvement ce que c'est. J'ai voulu l'écrire, mais c'était trop long. Alors j'ai voulu plutôt le dessiner. Parce que des fois, quand on dessine les versets bibliques, ben, il nous parle plus. Un petit dessin, des fois, ça vaut mieux qu'un grand discours. Donc voilà, un mouvement de multiplication de disciples, ça pourrait ressembler à quoi ? D'après 2 Timothée 2:2, ça pourrait ressembler « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres, les 4 générations spirituelles. » Les 4 générations spirituelles pourraient ressembler à ça. Avec G1, pour génération 1, c'est Paul. G2, c'est Timothée. G3, c'est les autres. Non, les hommes capables. Et G4, c'est les autres. Vous êtes d'accord avec ça ? Bon, j'ai dessiné ça. Je suis bon, hein, en dessin ? J'étais d'accord avec ce dessin, en même temps, pas trop d'accord. Parce que ça fait un petit peu gourou, vous trouvez pas ? Le G1 tout en haut, ça fait un peu pape, non ? Hein ? J'étais moyennement content de mon dessin. Puis j'ai l'impression que Paul était tout sauf un gourou. C'était pas quelqu'un qui contrôlait et qui contrôlait tout le monde. N'est-ce pas ? Je me méfie des gourous. Les gens qui veulent tout contrôler. Il y a un manque de spiritualité là-dedans. Alors, mon dessin, il n'était pas bon. J'ai décidé ça. Au moins, c'est plus égal, tu vois. Ça fait un peu gilet jaune, hein. Bon, ouais. G1 qui va G2, G3, G4. Là, je me suis senti un peu plus dans mes chaussures. Mais quand même, je trouvais que c'était encore un petit peu limité. Alors j'ai pensé différemment, je me suis rappelé les classes de bio quand j'étais au lycée. Je me suis dit, j'ai un, il est là, c'est Paul. À votre avis, est-ce que Paul, il avait uniquement comme G2 Timothée? Il y en avait d'autres, n'est-ce pas? Il a formé d'autres disciples, Paul. Est-ce que vous pouvez penser à des personnes qu'il a formées? Il n'a pas formé Barnabas, non. Il a travaillé avec Barnabas. Par la même occasion, il y a Brad Dixon qui vient dans 15 jours. Bon, c'est la personne avec qui je travaille dans l'œuvre d'implantation à Aix-en-Provence. Donc, Paul et Barnabas. Donc, c'était des collègues de travail. Non, mais les gens qu'il a formés. Il a travaillé avec aussi. Silas, c'était aussi un collègue à lui. Il en a eu des collègues, hein, Paul. Allez. Ouais, par exemple, Onésime. Et même Philémon avant lui. Hein? Philémon, par exemple. Vous pensez à quelqu'un d'autre? Allez, facile. Il a écrit même une lettre à cette personne. Tite, bien sûr. Donc, on va dire, il y avait Timothée, il y avait Philémon et Tite. On va dire trois. Mais il avait plus que trois personnes qu'il a formées. Parce que, après, mon dessin devient trop compliqué. Donc, je me suis réduit à trois. D'accord? Imaginez que ces trois personnes que Paul a formées ont eu à cœur aussi d'investir l'évangile qu'ils avaient reçu dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quand Paul les a formés, il les a pas formés uniquement en tant que disciples, il leur a donné aussi, dans leur ADN, la mission de former d'autres. Quand vous écoutez une histoire, vous l'écoutez. Mais si on vous dit, cette histoire que vous avez écoutée, il va falloir que vous la racontiez à quelqu'un d'autre. Vous l'écoutez pas pareil. Donc imaginez que l'apôtre Paul a enseigné ses disciples de cette manière-là. Ce que tu as reçu, ça sera ton tour de le transmettre à quelqu'un d'autre. Et on va dire que Timothée, Tite et Philémon, ils ont bien reçu ce message de l'apôtre Paul. Et eux-mêmes, ils ont été des disciples qui ont formé des disciples. Et voilà la génération G3. Ok? Mais on parle dans 2 Timothée 2:2 de quatre générations. Et imaginons que ces personnes ont reçu ce même ADN. Et que ces personnes, à leur tour, ont formé aussi des disciples. Et ça a donné ceci. Et là, on est beaucoup plus proche de ce qui s'est passé. Et ça a été tellement efficace que si aujourd'hui, vous et moi, on est dans cette salle, c'est grâce à ça. C'est grâce à un mouvement de multiplication de disciples qui a commencé à des milliers de kilomètres d'ici. Ça fait au moins 2000 ans et qui nous a atteints aujourd'hui. Et vous voyez le G1. Vous pensez qu'il connaît tous les G2, bien sûr, ça c'est évident, puisqu'il les a formés. Est-ce que vous pensez que ce G1 qui est au centre là, Paul, est-ce que vous pensez qu'il connaît les G3? Pas forcément. Est-ce que vous pensez qu'il connaît les G4? Encore moins, peut-être c'est des gens d'une autre culture, d'une autre couleur de peau. Vous imaginez ce qui est en train de se passer? Paul a fait partie d'un mouvement de multiplication de disciples. C'est-à-dire de quelque chose qu'il a carrément dépassé. Pendant le temps de sa vie, il a fait partie de quelque chose de plus grand que lui. Et donc je dis que de vouloir faire partie d'un mouvement de multiplication de disciples, c'est une bonne prière à faire au Seigneur. C'est pas quelque chose qui va nous rendre fiers, parce que de toute façon, c'est l'œuvre du Seigneur. On va faire partie d'un mouvement du Saint-Esprit, si on fait partie de ça. N'est-ce pas? Les G4 ne sont pas le produit de Paul. Mais Paul pourra dire plus tard, dans le royaume de Dieu, quelque part, eh ben, je suis content d'avoir été un élément dans le fait que tu es là aujourd'hui. Et c'est ça, faire partie de MMD. Et moi, franchement, je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, mais ma vie, je n'ai pas envie qu'elle soit passée à côté de ce plan-là, parce que ça, c'est le plan de Dieu. Et si je passe ma vie à côté de ce plan-là, je pense que j'ai raté ma vie. Et cette fois-ci, je le dis sérieusement. En plus, comme ces gens, ils avaient oublié d'être bêtes, ils ont créé des réseaux entre eux. Ils se sont parlé, ils ont fait plein d'entreprises ensemble. C'est le tissu de l'Église. Et ils ont fait un truc tellement énorme, ils ont révolutionné le monde antique. Et c'est comme ça que ça doit se passer encore aujourd'hui. C'est pas quelque chose de très spectaculaire, mais c'est quelque chose d'efficace. C'est de faire des disciples qui font des disciples. C'est la base. Donc, on vient de parler de MMD et de G4. Vous voyez, c'est facile finalement. Mouvement de multiplication de disciples, G4, 4 générations. Priez pour 4 générations, priez pour en faire partie. Ça commence par là. Je voudrais passer à quelque chose d'autre, toujours dans 2 Timothée 2:2 et toujours pour notre encouragement. VST. VST. Qu'est-ce que veut dire VST? Imaginons que vous priez et que le Seigneur vous met à cœur de faire partie d'un MMD. Vous allez vous poser la question peut-être de « Ok, mais avec quoi? Comment? je fais quoi ?» Vous savez qu'il existe pas mal de matériel dans notre monde évangélique français qui peut nous aider à suivre des disciples. Donc VST, c'est de chercher un matériel de discipulat, tout simplement. Et VST, pourquoi? Eh bien parce que ce matériel de discipulat, quel qu'il soit, moi j'ai bien sûr mes petites préférences, mais vous aurez certainement les vôtres. J'ai un ami qui dit c'est comme une rangée de tournevis. Tu ne sais pas pourquoi, il y en a un dont tu te sers mieux que les autres. Et tu ne sais pas pourquoi, mais c'est celui-là pour toi, c'est pour ta main. Toi, tu es le programme du Seigneur. Toi, tu es le programme du Seigneur. Et tu vas avoir aussi un outil qui va mieux te convenir. Mais quel que soit l'outil que tu prends, sois sûr que cet outil soit VST. VST, ça veut dire quoi? Ça veut dire vrai, simple et transmissible. Vrai, simple et transmissible. Vrai, parce qu'il doit être basé sur la Bible. Ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant. Ça doit être un matériel biblique qui est basé sur les vérités bibliques. Donc il est vrai. Ta parole est la vérité. Il est vrai. Premier V de VST, il est vrai. S, il est simple ce matériel. Parce que toi, tu as peut-être Bac plus 10. Mais si tu vas former uniquement des disciples Bac plus 10, eh bien la personne qui n'a pas Bac plus 10, elle ne va pas pouvoir être formée par toi. Et tu ne vas pas pouvoir faire de cette personne un disciple qui forme lui-même un disciple. Cette personne-là ne pourra former que des Bac plus 10. Or toi, tu n'es pas appelé à former des Bac plus 10, tu es appelé à former des disciples, à faire des disciples. Donc ton matériel doit être simple. Il doit être compréhensible par quelqu'un qui a Bac plus 10, il doit être compréhensible aussi par quelqu'un qui n'a pas fait de grandes études. Ce matériel doit être simple. S'il est vrai et simple, eh ben, il a un petit peu la manière d'enseigner de Jésus, non? Qui était simple. Pourtant, c'est le Fils de Dieu. Il a toujours enseigné simplement. Donc, que ton matériel soit vrai et qu'il soit simple. Et puis, qu'il soit transmissible. Parce que souvent, ce qui manque dans les matériels de discipulat, c'est qu'il y a beaucoup de choses dedans, il y a beaucoup d'enseignements. On se transforme presque en petit enseignant ou enseignante. Et on oublie qu'un des enseignements mais fondamental, c'est ce que tu as reçu, tu dois aussi le transmettre. Il faut que les principes de reproduction soient dans le matériel même. Par exemple, tu apprends à faire ton témoignage, mais ce témoignage-là, tu vas devoir le donner dans la semaine. Ce n'est pas juste un exercice académique. Et toi, en tant que formateur, à côté de ton disciple, tu vas faire la même chose. Parce qu'il est hors de question que tu demandes quelque chose que tu ne fasses pas toi-même. N'est-ce pas? Donc, vrai, simple et transmissible. Et dans ce sens-là, on peut trouver ensuite le matériel qui nous convient. Du matériel, il y en a plein. Voilà, c'est un truc qu'on avait pas mal utilisé à un moment donné. J'en utilise aujourd'hui un autre. Ça, c'est énorme. Enfin, c'est énorme, c'est très gros. J'aime bien celui-là. Il va bien, il colle bien avec le « Si tu veux aller loin » de Ralph Chalice. Si vous avez aimé le livre, celui-là, c'est le manuel de discipulat qui va avec. Tenez, voilà un plan. Vous achetez le livre « Si tu veux aller loin », vous l'offrez à un de vos disciples et ensuite, eh bien, vous allez avec lui au travers de plus loin avec Dieu. Ça va? Simple. Il est génial ce truc. Il y en a plein d'autres. Hein. Ça a été écrit pour l'Afrique francophone. C'est très simple. Et comme c'est très simple, eh ben, moi je l'ai dans ma bibliothèque quelque part aussi. Il y a toute une liste. Je peux vous laisser la slide, mais peut-être que vous avez aussi vos propres ressources. Du moment que ça soit VST. Vrai, simple et transmissible. Ça peut faire l'affaire. Ça peut faire l'affaire. Et puis je termine, V3. Donc on a eu MMD, c'est bon? G4, ça va. J'espère que ça vous encourage. Ok. J'espère, hein. Et puis, j'espère que ça ne vous écrase pas. Bon, j'espère aussi. VST, ok, et je termine par V3. V3. Alors, V3, c'est quoi? C'est un plan stratégique. Ok, faire des disciples, mais quel genre de disciples? Imagine que tu pries cette année, on est encore au début de l'année presque, hein, pour un V1, V2, V3. V, c'est le V de voisin. Tu vois? Un V1, ça serait un disciple mature. Un V2, ça serait un nouveau disciple. Et un V3, c'est un futur disciple. Et tu pries pour ces trois choses. Plutôt pour ces trois personnes. Tu vois, si tu suis par exemple un V1, c'est plutôt du mentorat que tu vas faire. Le V1, c'est un gars ou c'est une fille qui en veut pour le Seigneur, qui a déjà plein d'éléments dans sa vie, qui a déjà plein d'idées, mais cette personne a besoin de quelqu'un, d'un grand frère ou d'une grande sœur, le mentorat. Donc ça, c'est V1. V2, c'est quelqu'un qui vient peut-être de se convertir ou qui n'a pas encore les bases du discipulat, pas encore les bases de la vie chrétienne. Tu sais, qui est un petit peu encore en dents de scie, qui doute de son salut, qui, quand il fait un péché et qu'il a demandé pardon, doute encore qu'il ait pardonné, etc. Tu vois, le gars qui a des fois le moral dans les chaussettes encore, et puis une semaine plus tard, il est au septième ciel. Tu vois ce disciple-là? Ben, ce disciple-là, il faut qu'il apprenne que la vie chrétienne, c'est plutôt vers la stabilité, quoi, et plutôt vers la joie, et vers le pardon, et vers le salut, et vers la victoire. Le disciple-là n'a pas à voir avec l'enseignement, premièrement. Il y a des enseignants dans l'Église. Ils feront le job. Ils le feront très bien. Le discipulat a à voir avec la gestion du péché. Tu peux entendre tous les messages que tu veux, tous les sermons que tu veux. Tu rentres chez toi et tu te prends le péché en pleine face. Et ça, tu n'en parles à personne. C'est ça, le discipulat. C'est d'avoir les mains un peu dans le cambouis. Parce qu'on gère le péché. Et on entend les confidences du péché. Et on ne condamne pas. On soutient. Et on aide les gens à se relever. N'est-ce pas? Et souvent, ça, c'est réservé aux pasteurs. Parce que j'aime pas ce mot. Pasteur. Pourtant, c'est comme ça que je me présente devant les autorités. Je suis pasteur. Depuis je ne sais plus combien d'années. Mais tu vois, ce mot, des fois, il est devenu tellement fonctionnel qu'on a oublié qu'un pasteur, c'est avant tout un berger. Et qu'on est des bergers et des bergères, n'est-ce pas? Non? On a fait de ce mot une fonction. Des fois, j'entends pasteur comme j'entends curé. Et on entend ce mot-là, c'est le pasteur qui va gérer le discipulat. Mais faux! C'est nous tous. C'est nous tous. C'est nous tous qui sommes appelés à ça. Pas uniquement les pasteurs. Et après, on s'étonne qu'ils craquent. C'est normal, hein? Ils font le discipulat pour tout le monde. Non, non, c'est à nous tous à le faire. C'est à nous tous à le faire. En général, les pasteurs sont plutôt enseignants aussi. On n'est pas tous enseignants. Mais avec quelqu'un, deux, trois bons enseignants dans l'Église, ça suffit pour que nous tous, on puisse ensuite faire du discipulat et apprendre à gérer le péché des gens et aussi notre propre péché. Et le V3, c'est un futur disciple. C'est-à-dire que j'ai un regard différent sur le monde. Je ne vois pas le monde comme des chrétiens et non-chrétiens. C'est in, out, on, off. Les gens qui sont autour de toi sont des chrétiens qui peuvent être des chrétiens en devenir. Ah, je sais que c'est un peu dangereux. Ne me brûlez pas, je ne fais pas l'hérétique. Je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas un universaliste. Je dis simplement que quand Jésus déambulait en Israël, il voyait les gens autour de lui comme des disciples potentiels. Et il les appelait à sa suite. Il ne voyait pas on-off. Il voyait des gens qui allaient le suivre plus ou moins près et plus ou moins loin. Et il les prenait avec lui. C'était un chemin que tu faisais avec le Seigneur. Et ça, c'est un regard différent sur le monde. Ça enlève un petit peu la mentalité forteresse. Tu sais, je suis planqué derrière mes murs et derrière, il y a le monde. Non, non. Nous sommes entourés de disciples en devenir. Ils attendent l'appel du Seigneur. Et l'appel du Seigneur passe par toi, parce que tu es le programme de Dieu. C'est la bonne nouvelle, non? Donc oui, voilà, V3, ça pourrait être ça. Ça pourrait être cette stratégie V3. Donc vous voyez, dans V3, vous avez des bons livres qui existent, par exemple « Les communautés de mentors » pour ceux qui vont faire du mentorat, qui vont former des V1. C'est un excellent livre. La préface est de Alain Stamp. « Multiplier les leaders », c'est aussi pas mal du tout, et ça fait partie intégrante du discipulat, de multiplier les leaders. Combien de temps on passe auprès des gens qui ont des gros problèmes, et les gens qui vont bien, on ne s'occupe pas d'eux. Alors que c'est les V1 qui vont être ceux qui vont faire exploser l'Église, n'est-ce pas? C'est important. Oui, alors, multiplier les leaders, et d'ailleurs, je vous transmets un petit sujet de prière pour Aix-en-Provence. Eh bien oui, on est en train de former des leaders. Vous pourriez peut-être prier pour cela, parce que ça, c'est l'avenir. Moi, en tant qu'implanteur, j'ai clairement dit à l'Église, mais voilà, moi, je ne suis pas là pour rester. C'est d'autres personnes qui continueront le travail. Il n'y a rien qui pousse auprès des grands arbres, n'est-ce pas? Je ne me prends pas pour un grand arbre. Hein. Une pensée que j'ai traduite de l'anglais, excusez-moi, il y a peut-être une faute ou deux, mais j'ai trouvé intéressant dans un de ses livres. Ça s'adresse à ceux qui ont les cheveux blancs. Pourquoi certains responsables pourtant expérimentés sont-ils réfractaires sur ce point, le point du discipulat, hein? D'une part, ils ne comprennent pas toujours les valeurs et la manière dont les jeunes générations font les choses. Hein, des fois, on se sent complètement largué. D'autre part, puisque ni l'âge avancé ni la sagesse ne sont valorisés dans notre société, les personnes âgées pensent que ni elles ni leur vie n'offrent d'intérêt pour les jeunes. L'âge vénérable, l'expérience et la sagesse ne sont pas admirés dans notre culture. Et donc, beaucoup de seniors n'ont pas réfléchi à la possibilité de transmettre d'une manière tangible ce qu'ils avaient reçu. Certains pensent qu'ils n'ont pas le temps pour être des mentors. D'autres qu'ils n'ont rien à offrir. D'autres pensent qu'ils ont déjà trop d'engagement. Et enfin, d'autres craignent de ne pas pouvoir répondre à ce qui pourrait être attendu. Les raisons sont nombreuses, mais pourtant, cela reste un point crucial que ces responsables s'engagent comme mentors. J'ai envie de m'adresser aux cheveux blancs. Vous avez une richesse extraordinaire. Vous êtes des bibliothèques ambulantes d'expérience et de vécu avec le Seigneur. Ce que vous avez à passer est précieux. Passez-le. Et soyez des mentors pour les plus jeunes. Ah ouais, bien sûr, on ne s'impose pas mentor. On travaille une relation. Mais vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui regardent, qui ont vraiment besoin de gens qui marchent un peu devant eux parce qu'ils ont fait les mêmes erreurs, mais avec quelques années d'avance. Et c'est tellement encourageant. Quand on est au milieu de quelque chose qui ne va pas bien, de dire, tu sais, moi je suis passé au milieu de ça. Et toi? Oui, moi. Et grâce au Seigneur, j'ai eu la victoire. Oh, j'aurais jamais pensé que toi. Oui, ben oui, moi. Et là, c'est un grand encouragement quand tu es un disciple de Jésus-Christ. De voir que le Seigneur, il agit, mais que l'évangile est vrai et qu'il s'écrit dans la vie des gens qui sont autour de toi. J'ai aussi envie de donner un encouragement aux jeunes. Parce que ce n'est pas que pour les personnes âgées de faire des disciples, c'est aussi pour les jeunes, pour les gens de ta génération. C'est toi qui vas les atteindre. Et tu penses peut-être que tu n'as rien à donner, et c'est là que tu te plantes, mais alors méchant. Mais sûr, tu as quelque chose à donner. Ou plutôt, tu as quelqu'un à donner. Tu as Jésus-Christ. C'est juste énorme. Mais il faut commencer. Et à un moment donné, quand on commence, il ne faut pas penser qu'on va devenir tout de suite quelqu'un de hyper, efficace. Au début, on se plante quand on fait des disciples. C'est l'œuvre du Seigneur, mais c'est un métier, c'est une vocation, ça s'apprend. Et au début, on fait des erreurs. Ben oui, on fait des erreurs, et puis on fait de mieux en mieux. Travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. On pense que parce qu'on obéit au Seigneur, ça y est, il y a tout qui va rouler. Ben non, des fois, on fait des erreurs aussi avec les gens, on doit demander pardon. Et on apprend à être des formateurs de disciples qui travaillent de mieux en mieux. C'est tout. Je termine. C'était la clé, SEF. Je vous avais dit, je ne voulais pas la mettre parce que ça ferait trop. Vous vous rappelez alors le titre du message, MMD, G4, VST, V3. Vous pourriez expliquer ces choses-là. C'est une stratégie, quelque chose qui est basé sur 2 Timothée 2.2. J'ai fait que commenter 2 Timothée 2.2. J'ai rien inventé. On n'a rien inventé. Alors la clé, SEF, je vous la passe quand même à la fin en conclusion. Où commencer? C'est ça le problème. C'est que dans moins d'un mois, vous aurez oublié, peut-être même avant, tout ce que je vous ai dit. Parce que la date de péremption d'une vision, c'est un mois. Si on la répète pas, c'est comme le yaourt, tu peux le jeter. Et ça, pourtant, c'est la vision du Seigneur. On se dit, ouais, mais on a le Saint-Esprit. N'importe quel groupe humain oublie, même les choses importantes, oublie au bout d'un mois. Ça, c'est une vision qui transforme la vie. Mais au bout d'un mois, on aura tout oublié. Peut-être même avant. Alors, où commencer? Et c'est important de commencer après un tel message, de ne pas juste écouter et se dire, ok, mais commencez. Et le challenge, c'est mon challenge. Je passe de l'encouragement au défi. Mon challenge, c'est de commencer maintenant. J'ai dit, mon challenge, c'est de commencer maintenant. Parce que nous sommes déjà envoyés. Regardez ces versets, vous les connaissez par cœur. Matthieu 28. N'est-ce pas? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On les connaît, ces paroles. C'est l'ordre de mission du Seigneur. On est envoyé jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas parlé juste aux 12, puisque la fin du monde n'est pas arrivée. Donc il parlait aux disciples de tous les temps, c'est nous aussi. Et acte 1, 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 1, 8, tout le livre des actes est basé là-dessus. Donc ça, c'est les ordres de mission du Seigneur, on les connaît. On a été envoyé, ça fait 2000 ans. L'appel de Dieu date de 2000 ans. Donc c'est maintenant qu'il faut s'y mettre, si jamais on ne l'a pas fait encore. Il est là, l'appel de Dieu. Et juste pour vous encourager, je terminerai par cette pensée que j'emprunte à un planteur allemand qui s'appelle Dietrich Schindler, Jesus Model, peu importe, mais je trouve ces pensées pertinentes et je terminerai par cela. Dans cette clé SEF, dans cette conclusion. Voilà notre modèle, le modèle que nous suivons en Europe et notamment en France. On oriente les gens, par exemple, imaginons que ce matin, je vous ai orienté. Je vous ai orienté d'ici plus là. Vous pensez immédiatement ensuite, ah, il faut que je me forme. Et ensuite, donc, que formé, ben, je sois envoyé. Alors, ces trois séquences sont complètement justes, mais en relisant les évangiles, on s'est rendu compte que Jésus lui-même suivait ces trois séquences, mais pas dans cet ordre-là. Et que l'enseignement, la pédagogie de Jésus-Christ était différente. En fait, l'ordre dans les évangiles est plutôt cela. Jésus oriente, Jésus envoie, et ensuite il forme. Vous pensez par exemple à l'envoi des 12 ou l'envoi des 70. Il les oriente, mission, mais très brièvement. Il leur donne vraiment le béaba, le kit de survie, et il les envoie. Et quand ils reviennent, il les prend à part sur la montagne, et là, ils travaillent leur identité profonde. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits mauvais vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans le ciel. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Il est en train de travailler leur identité, et là, il les forme. Ils travaillent leur identité chrétienne, leur identité de disciple. Donc la séquence avec le Seigneur, c'était orienter, envoyer, et ensuite, former. Et c'est la raison pour laquelle je donne cette conclusion, c'est que c'est une conclusion qui nous défie. Quand est-ce qu'on commence? On a été appelé, ça fait 2000 ans. On a besoin de formation? Certainement. Certainement. Mais cette formation, on ne pourra l'apprécier qu'après avoir commencé le travail, et pas avant. Pour terminer, je vous raconte juste une anecdote pour illustrer ce point. On faisait un travail de plein air dans un parc, le parc Jourdan à Aix-en-Provence, où il y a beaucoup d'étudiants. Et en fait, on rencontre beaucoup de gens qui ont des pensées complètement diverses et variées à propos de la spiritualité et à propos de Dieu. Certaines pensent, par exemple, que Dieu est partout présent dans la nature, d'autres que Dieu est présent en eux. Etc., etc. On rencontre pas que des gens, entre guillemets, athées, mais on rencontre des spiritualistes qui ont des idées sur Dieu, même s'ils ne l'appellent pas comme ça. Et moi, j'avais pensé que mon équipe, ça serait bien qu'elle ait une formation en apologétique. L'apologétique, c'est quoi? C'est la défense de la foi. Les arguments qui aident à défendre la foi chrétienne en face des visions non bibliques du monde. Et comme on avait un professeur d'apologétique pas trop loin, moi j'ai pensé, pourquoi ne pas faire une formation d'apologétique? Et je leur ai dit, ça vous dirait une formation d'apologétique? J'ai le gars, il peut venir et il m'a dit qu'il était OK pour nous donner un cours gratuit, même plusieurs. Vous savez ce que mon équipe m'a répondu? Non, qu'est-ce qu'on va faire de l'apologétique? OK, ça va les gars, hein, on y va, hein, on continue. Au bout d'un mois, c'est eux qui sont venus me voir et m'ont dit « Philippe, tu te rappelles ce que tu nous disais, l'apologétique là ? Il est toujours disponible, ton prof ?» Pourquoi est-ce qu'ils voyaient la nécessité de la formation ? Parce qu'ils ont accepté d'être envoyés. Et confrontés à des visions non bibliques du monde, ils se sont rendus compte de leur besoin de formation. Et là, ils ont apprécié la formation en apologétique. Mon erreur, c'était que je suivais le premier schéma. Je voulais les former avant de les envoyer, mais non, les envoyer d'abord, les former après. Et on a eu une formation en apologétique qui a été très instructive. Parce que derrière les visions non bibliques du monde, nous on avait des visages, on avait des prénoms, on avait des gens. Et ça nous concernait. Donc, où commencer? Mais maintenant. Maintenant, parce que c'est en étant envoyé que plus tard le Seigneur va nous former de mieux en mieux à être des disciples qui font des disciples. Que le Seigneur vous bénisse, qui bénisse sa parole, ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes capables, qui soient aussi capables, des hommes fidèles, pardon, qui soient aussi capables de l'enseigner à d'autres. Le Seigneur bénisse sa parole.